Le journal, Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Renault tourne définitivement ce matin la page. Carlos Ghosn, lequel a démissionné cette nuit de son poste de président. Le tandem composé de Jean-Dominique Senard et de Thierry Bolloré pour lui succéder est actuellement présenté au conseil d'administration du groupe.
Le président Emmanuel Macron est à Valence aujourd'hui pour le troisième acte du grand débat national.
Oui, il doit y rencontrer une soixantaine d'élus de la région, mais toujours pas de gilets jaunes, lesquels, pour se faire entendre, ont annoncé hier qu'ils pourraient présenter une liste aux prochaines élections européennes.
Dans votre journal également, les Français qui ont de moins en moins confiance dans les médias.
C'est ce qui ressort de la nouvelle édition du baromètre annuel du journal La Croix, réalisé en plein mouvement des Gilets jaunes et publié ce matin. En revanche, et même s'ils s'en méfient, ils s'intéressent aussi de plus en plus à l'information. Plusieurs organisations syndicales et lycéennes et des personnels de l'éducation appellent à une grève massive aujourd'hui. Parmi les nombreux motifs de leur colère, on trouve notamment la réforme des lycées et les suppressions de postes à la rentrée.
L'invité politique du jeudi.
Dans moins d'une demi-heure, nous recevrons Daniel Obono, député de la France Insoumise, de la 17e circonscription de Paris. L'actualité à l'étranger, nous irons notamment au Venezuela, où le président Nicolas Maduro compte à présent sur l'appui de l'armée pour contrecarrer le soutien international apporté au président du Parlement, Juan Guaido, autoproclamé la veille président par intérim. Enfin, nous reviendrons sur le décès hier à l'âge de 96 ans du réalisateur d'origine lituanienne, Jonas Mekas, figure du cinéma américain d'avant-garde. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il plaide pour un réveil et aussi une forme de réconciliation entre toutes les intelligences humaines, animales et artificielles. Le paléo-anthropologue Pascal Pic est notre invité à l'occasion de l'apparition de son nouvel essai, L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Il sera avec nous donc à partir de 12h55.
Merci, à tout à l'heure. Depuis les premières images de son arrestation sur le tarmac d'un aéroport alors qu'il venait de prendre place dans son avion privé jusqu'à celle de son apparition au tribunal, menotté et chaussé des sandales du détenu, voilà 2 mois maintenant que l'affaire Ghosn, comme on l'appelle, crève l'écran de l'actualité. Les révélations de scandales à répétition distillées dans la presse, les soupçons de complot industriel, mais aussi le rôle joué par les différents protagonistes de ce scénario à tiroir, les alliés qui se déchirent, les fidèles pris dans la tourmente, les épouses combatives constituent autant de ressorts dramatiques à une saga définitivement hors du commun. Dernier épisode en date, après la démission cette nuit du magnat de l'automobile de la présidence de Renault, le groupe automobile français a donc convoqué ce matin son conseil d'administration pour lui désigner un successeur. Anne Lanchouin, bonjour.
Bonjour Thomas.
La marque Hollandsange a intronisé à sa tête, a priori, un nouveau tandem, donc constitué de Jean-Dominique Senard, jusque la patronne Michelin, et de Thierry Bolloré, adjoint et dauphin désigné de Carlos Ghosn. Ou dit autrement, Renault a débuté aujourd'hui la remise à plat totale de son édifice subtil, dont Carlos Ghosn était la clé de voûte depuis près de 15 ans.
Oui, Carlos Ghosn qui fut recruté par son prédécesseur Louis Schweitzer chez Michelin, de là où vient son successeur. La comparaison en termes de style de management, du moins, ça arrête là. Si Carlos Ghosn peut se vanter d'avoir été le premier patron étranger à redresser une entreprise japonaise au bord de la faillite, Nissan en l'occurrence, dans un pays traditionnellement fermé aux managers et aux investisseurs étrangers, il traîne également derrière lui une réputation de gestion autoritaire, opaque, voire injuste. Tout le monde ne s'en souvient pas, mais en 2011, une supposée affaire d'espionnage avait conduit Carlos Ghosn à accuser publiquement au journal de TF1 3 ingénieurs haut placés de la firme de vendre des informations à la Chine. Il les avait licenciés brutalement. Tout était faux, mais l'enquête un peu trop musclée menée en interne. Puis en 2013, la vague de suicides au technocentre de Renault, symptôme d'un management brutal à la tête de l'entreprise. Tout cela a contribué à donner l'image d'un excès de pouvoir concentré dans ses seules mains, sans compter évidemment les controverses presque annuelles ces dernières années sur sa rémunération.
Et puis c'est donc un tout autre type de manager alors qui va lui succéder.
Oui, ancien PDG d'un autre fleuron de l'industrie française, Jean-Dominique Senard est connu, lui, pour avoir tenté en interne chez Michelin donc un nouveau style de management sur le modèle de l'entreprise libérée. Alors en très résumé, c'est l'idée qu'il est plus adapté de faire venir les décisions de la base plutôt qu'exécuter des ordres venus d'en haut, la responsabilisation des employés, des chaînes hiérarchiques moins strictes, plus diluées dans l'optique d'une meilleure adaptation de l'entreprise à la mondialisation. Une image de patron bien plus sociale, donc, qui succède à celle d'un patron autoritaire. D'autant que Jean-Dominique Senard sera en tandem, vous l'avez dit, avec un autre ancien de chez Michelin, l'actuel numéro 2 de Renault, Thierry Bolloré, connu lui aussi pour être plus à l'écoute. Les orientations stratégiques du groupe, pour l'instant, elles ne changent pas.
Merci Anne-Laure Chouin. C'est l'autre feuilleton de ces dernières semaines, celui né de la crise des Gilets jaunes. Troisième acte du grand débat national voulu par Emmanuel Macron après ses déplacements la semaine dernière dans l'Eure et le Lot. Le chef de l'État poursuit son itinérance aujourd'hui dans la Drôme. Nouvelle étape et nouveau cadre, puisque contrairement au précédent rendez-vous, le débat entre le président et les élus s'annonce cette fois-ci plus court. Il ne sera par ailleurs pas retransmis en direct par les chaînes d'info. Un changement de format assumé, dit-on, du côté de l'Élysée, avec la volonté de ne pas lasser et peut-être aussi de ne pas surexposer un président dans des échanges marathon parfois virulents avec les édiles. Et puis ce débat qui doit débuter dans quelques instants a été précédé ce matin par un tête-à-tête inédit entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez, le patron des Républicains, lequel n'a jamais été vraiment tendre avec le chef de l'État, même s'il peine aujourd'hui à s'affirmer comme son principal opposant concurrencé qu'il est par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Enfin, tandis que le président de la République poursuit donc ses échanges avec les élus, loin des gilets jaunes, priés de ne pas franchir les périmètres de sécurité établis par les forces de l'ordre, voilà qu'on apprend que des représentants du mouvement de contestation envisageraient de présenter une liste aux élections européenne. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
Alors cela fait déjà un certain temps que la question se posait. Les Gilets jaunes, si méfiants à l'égard des politiques, allaient-ils pour autant se lancer dans la course à l'élection présidentielle? Et a priori, la réponse est oui.
À l'élection européenne. Et pour l'instant, ils sont une dizaine sur cette liste. Comptables, caristes, maires au foyer ou encore chefs de petite entreprise. Ils s'engagent derrière l'une des figures du mouvement l'aide-soignante, Ingrid Levavasseur, avec l'idée affichée de transformer la colère en un projet politique humain, voilà ce qu'écrit ce RIC, ralliement d'initiatives citoyennes. Pour le programme, on verra plus tard, c'est officiellement en construction et c'est un peu ce qui coince pour Mounir Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, invité des matins de France Culture, juge l'initiative saine, mais il attend des précisions.
Cette liste va devoir clarifier sa ligne. Cette liste va devoir nous dire ce qu'elle veut pour les frontières de l'Europe, ce qu'elle veut pour l'avenir du travail en Europe, ce qu'elle veut pour l'avenir des Européens. Parce que les mouvements gilets jaunes, il y en a beaucoup qui sont très différents les uns des autres. Il y en a qui sont issus de l'extrême droite française. Il y en a qui sont issus de l'extrême gauche française. Il y en a qui ont toujours été contre tous les partis. Il y en a qui trouvent que la violence est légitime. D'autres qui sont contre la violence. Certains pensent que ce gouvernement doit tomber. D'autres pensent qu'il faut nous influencer. Donc, dans les gilets jaunes aujourd'hui, il y a tous les partis représentés. À eux de dire où ils sont.
Chez les Républicains, on félicite et on encourage. Au PS, on salue ceux qui se confrontent au suffrage universel. Côté Rassemblement National, on assure qu'on n'a pas peur. Pourtant, c'est bien là que cela peut faire bouger les lignes. Selon un sondage Elab, une liste Gilets jaunes arriverait troisième des européennes avec 13% des voix derrière La République En Marche et le Rassemblement National, mais en faisant reculer de 3 points le parti de Marine Le Pen.
Merci Rosalie Lafarge. Alors ce mouvement des Gilets jaunes aura notamment été marqué par une défiance croissante entre les manifestants d'un côté et les médias traditionnels de l'autre. Dès lors, on ne sera pas véritablement surpris de lire dans la nouvelle édition du baromètre annuel du journal La Croix, réalisé en plein mouvement de contestation sociale et publié aujourd'hui, que la moitié des sondés jugent que les médias ont maltraité ce mouvement. Mais au-delà, ce que révèle cette étude, c'est que les Français ont de moins en moins confiance dans les médias. La télévision, média pourtant préféré des Français pour s'informer, recueille paradoxalement un niveau de confiance de seulement 38%, soit une chute de 10 points en un an. La radio, le média auquel ils font traditionnellement le plus confiance, en recueille 50%, moins 6 points. Enfin, la presse écrite s'effondre elle aussi à 44%. C'est 8 points de moins que l'an dernier. Pour autant, selon Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix, il en ressort tout de même deux bonnes nouvelles. Et en particulier, si les Français ont de moins en moins confiance donc dans les médias, ils continuent pour autant de s'intéresser fortement à l'actualité.
Alors les bonnes nouvelles, c'est d'une part que l'intérêt pour l'information reste à un niveau extrêmement élevé, même particulièrement élevé cette année. Donc ça veut dire que les citoyens sont en demande d'information, qu'ils ont besoin d'information. Donc nous avons quelque chose à leur apporter. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce qu'on constate au fil des années, c'est qu'ils développent un esprit critique important et que donc ils ont une volonté de savoir s'ils sont bien alimentés par nous, que nous leur fournissons de bonnes informations. Cette exigence qui nous est adressée peut véritablement nous faire progresser dans la qualité de notre travail et ça, c'est une bonne nouvelle. Même les plus jeunes vont quand même vers les sites des médias quand ils veulent savoir ce qui se passe, vraiment. Donc ça prouve que malgré tout, même si on a des raisons de se préoccuper, les médias restent quand même... Quand quelqu'un veut savoir ce qui s'est passé, il a quand même l'idée de se tourner vers des journalistes. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
Voilà, Guillaume Goubert, directeur du journal La Croix. Il répondait à Audrey Dumain. Et puis j'ajoute que les pistes de réflexion pour améliorer le métier de journaliste, mais aussi son image, seront l'objet du hashtag de demain à 7h24 sur notre antenne et sur le site franceculture.fr sous le vocable hashtag le mon journalisme idéal. Stop mépris est un autre hashtag qui s'exprime, lui, dans la rue. Aujourd'hui, après s'être révolté sur Twitter, les enseignants ont choisi de descendre manifester. Un appel national à une grève massive lancée par plusieurs syndicats les invite, eux, mais aussi les lycéens et les parents d'élèves, à se mobiliser aujourd'hui contre les suppressions de postes à la rentrée, également pour l'abandon du projet de service national universel ou bien encore le retrait de Parcoursup, sans oublier la réforme du baccalauréat. Sur ce point en particulier, la réforme des lycées prévoit de mettre fin aux filières classiques L, ES et S. Dorénavant, les premières devront choisir trois spécialités en plus d'un tronc commun obligatoire. Seulement voilà, selon Rodrigo Arena, le coprésident du syndicat de parents d'élèves FCPE, cela conduira nécessairement à des inégalités d'accès à ces spécialités selon les territoires et notamment en zone rurale.
Pour que les élèves aient un choix complet, ils devraient pouvoir choisir parmi les 12 spécialités qui sont présentées par le ministère. Or, ce n'est pas le cas. Les spécialités qui seront dispensées dans les établissements sont publiques, soit sur les sites du rectorat, soit parce que la FCPE s'est organisée pour faire des compilations par département, parce que ça fonctionne par département. On se rend compte que les élèves n'ont pas ce choix. Alors qu'on vous présente un algorithme qui s'appelle Parcoursup aujourd'hui, qui est censé prendre en compte vos désirs, l'algorithme ne peut pas fonctionner, parce que qui dit désir dit aussi choix, et le choix n'existe pas. En fait, la réforme du lycée, c'est quoi le problème? C'est que on vous dit, regardez, vous allez venir au resto, la carte a l'air super alléchante, sauf qu'au fur et à mesure que vous commandez les plats, on vous explique qu'ils sont plus au menu, on n'a pas les ingrédients en cuisine. Ça peut pas marcher comme ça. Vous créez une dynamique de désir quelque part, mais en fait, votre désir, non seulement vous pouvez pas l'assouvir, c'est ça qui va structurer votre dossier scolaire pour pouvoir postuler au supérieur, et Parcoursup organise ça. Donc ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher en amont, et ça peut pas marcher en aval, sauf qu'au milieu, c'est nos gamins. On a un collège en Sainte-Saint-Denis à Villemont, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont pas de prof d'allemand. C'est des classes bilingues. Et c'est ça qui va structurer leur dossier pour postuler à Parcoursup. Vous voyez bien que tout ça est biaisé. Et donc c'est tous ces biais dont aujourd'hui tout le monde a conscience, qui ne sont plus acceptés, qui n'ont jamais été acceptables et qui pourtant vont conditionner et structurer votre capacité à être recruté par une université.
Alors Rodrigo Arena, coprésident du syndicat de parents d'élèves FCPE, il répondait à Victoria Coussa. Depuis hier, le Venezuela disposerait désormais de deux présidents, plus exactement d'un chef d'État légal et l'autre légitime. Après que des dizaines de milliers de manifestants ont battu le pavé hier pour exiger le départ de Nicolas Maduro, le leader de l'opposition, Juan Guaido, s'est en effet autoproclamé président par intérim. Il a immédiatement reçu le soutien des États-Unis, auxquels plusieurs autres pays, dont le Canada, mais aussi des pays d'Amérique latine, ont emboîté le pas. Alors évidemment, dans ce qui apparaît comme une crise de régime sans précédent, l'opposition semble enregistrer là un immense succès populaire, sauf que la victoire en réalité n'est pas totale. Pourquoi? La réponse depuis Caracas avec notre correspondant Benjamin Delisle.
Ce 23 janvier, l'opposition n'a gagné qu'une partie de son pari pour engager le changement. Juan Guaido l'a dit lui-même, il a besoin de trois soutiens. Il y a d'abord le soutien international, celui-là il l'a depuis longtemps. À l'image des États-Unis de Donald Trump, de nombreux pays comme ceux du groupe de Lima lui ont confirmé hier leur soutien en le reconnaissant dans sa fonction de président par intérim. Il y a ensuite le soutien populaire, c'est le grand succès de la journée d'hier, son appel à manifester a été très largement suivi et il a surtout convaincu les quartiers populaires historiquement acquis au chavisme de sortir manifester. Il a été aidé certes par la très grave crise économique, mais c'est tout de même un exploit que l'opposition n'avait jamais réalisé. Là où le bât blesse, c'est sur le troisième soutien sur lequel l'opposant comptait, celui des militaires. Il y a eu certes quelques signes de fracture au sein de l'armée, comme la mutinerie d'une dizaine de soldats l'un des derniers, mais elle ne l'a pas rejoint. Pire, elle a réaffirmé hier son soutien à Nicolas Maduro tout en rejetant son autoproclamation comme président. Et c'est un grand échec pour Juan Guaido car l'armée, c'est le ciment qui fait tenir le pouvoir chaviste en place.
Aux États-Unis, la paralysie politique a contraint Donald Trump hier à reporter s'inédié le discours présidentiel sur l'état de l'Union, le conflit entre républicains et démocrates, lequel prive de budget une partie des administrations fédérales, semble toujours insoluble. Et puis les députés grecs sont appelés aujourd'hui à mettre un terme à 30 ans de contentieux entre la Grèce et la Macédoine en se prononçant sur le nouveau nom de la République balkanique voisine, rebaptisée en République de Macédoine du Nord. Entamé hier, le débat doit se conclure cette nuit par un vote du Parlement. Cinéaste du présent, il osait capturer l'insignifiant, figure emblématique du cinéma indépendant et underground. Le réalisateur américain d'origine lituanienne, Jonas Mekas, est décédé hier à l'âge de 96 ans. Il aura réalisé plus de 70 films, le plus souvent sous forme de documentaires, avec le désir de capter des moments de vie, souvent passés au filtre d'un montage radical. Et puis très actif dans la communauté du cinéma, Jonas Mekas avait par ailleurs créé à New York la Filmmaker Cinematheque, un lieu de projection de films d'avant-garde, au point de constituer au fil des années l'un des plus importants fonds du cinéma alternatif. Mathieu Laurent, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Jonas Mekas aura ainsi impressionné toute une génération admiratrice d'un cinéma à la fois alternatif et expérimental.
Et dès son arrivée à New York en 1949, Jonas Mekas, qui a lu Byron, Tourguenieff, Hugo, Rilke, fait l'acquisition d'une Bolex, une caméra voltigeuse, caméra crayon, grâce à laquelle il va immortaliser d'interminables errances dans Manhattan, l'œil pellicule de l'exilé, captera des fragments de vie, des instantanés, et cette quête de l'incandescence va le conduire à rencontrer de futures hautes figures artistiques de l'underground. Les stars de ses œuvres s'appellent Allen Ginsberg, Andy Warhol, Carl Theodor Dreyer, Jack Smith, Peter Kubelka, et la plasticité, Thomas, l'emporte toujours sur la narration. Parmi ses admirateurs, Dominique Pagny, qui a dirigé la Cinémathèque, a organisé avec Daniel Hibon l'une des premières rétrospectives. Mekas, c'était au Jus de Paume.
C'était un cinéma très mobile, sa manière de filmer avec beaucoup de hockey, de rapidité, de fulgurance, d'agitation. En fait, c'était pas un cinéma mobile, c'était un cinéma motile, j'ai envie de dire. Vous savez, la motilité des yeux, c'est cette agitation de l'œil inconsciente, c'est la façon dont l'œil n'arrête pas de bouger, mais c'est au-delà de la mobilité. Et sa caméra était motile. Elle avait cette sorte d'agitation à l'image de la réactivité de l'œil, et ce qui faisait en sorte que, tout à coup, le regard devenait respiration. Donc c'était vraiment un inventeur de poésie visuelle, puis un inventeur de poésie du coup.
Il faut que cela soit hors de votre contrôle. La prise de décision est inconsciente. Si vous commencez à prendre une décision en toute conscience, arrêtez tout, vous ne ferez rien. Il n'y a pas de pensée, il n'y a aucune anticipation. La créativité n'existe pas, faites juste ce qui vous semble conforme à ce que vous ressentez.
Jonas Mekas laisse un journal intime scintillant, parcouru de ces éclats de beauté qu'il traquait tous les jours. Une œuvre qui n'est autre que le portrait d'une génération. Mekas, aiguilleur de talent, pionnier de la contre-culture et passeur transatlantique. L'ambassadeur passionné de la nouvelle vague à New York nous livrera rien de moins que la culture beat.
Merci Mathieu Laurent. À 12h48 sur France Culture, c'est l'heure de l'invité politique de la rédaction, Daniel Obono, député La France Insoumise de la 17e circonscription de Paris, est en direct et en duplex de l'Assemblée nationale. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à vos côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Une première question, madame Obono, j'évoquais tout à l'heure la situation au Venezuela. Ce matin, le président français Emmanuel Macron a salué, je cite, « le courage des centaines de milliers de Vénézuéliens qui marchent pour leur liberté face à l'élection illégitime de Nicolas Maduro ». Et puis de son côté, Jean-Luc Mélenchon, lui, a immédiatement dénoncé l'appel du président français à la restauration de la démocratie. Alors on n'est pas véritablement surpris, Jean-Luc Mélenchon a toujours affiché son soutien au régime vénézuélien, d'Hugo Chavez d'abord, puis de son successeur Nicolas Maduro. Mais est-ce que vous, Daniel Obono, partagez l'avis du patron de votre parti ?
Je partage le soutien au peuple vénézuélien et à la révolution bolivarienne, ça c'est certainement. Et je ne partage absolument pas le soutien aujourd'hui du président à un coup d'État, parce que c'est comme ça, c'est ce qui se passe exactement. Un coup d'État soutenu par et certainement téléguidé et financé et organisé par les États-Unis, parce que quelques minutes après avoir appris le coup d'État du président de l'Assemblée nationale contre le président élu, Monsieur Trump a reconnu l'autoproclamé président et suivi par Monsieur Bolsonaro. Et donc on voit en quelle belle compagnie aujourd'hui se trouve Monsieur Macron à soutenir un coup d'État, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Je ne vois pas comment on peut caractériser autrement ce qui se passe aujourd'hui au Venezuela. Quoi qu'on pense de ce régime, ce président a été élu. Il a bénéficié d'un soutien massif de la population. Le peuple vénézuélien a élu ce président. Ils ont aussi élu une assemblée nationale. Donc il y a une crise institutionnelle qui ne peut se résoudre par l'acceptation d'un coup d'État. Excusez-moi, à un moment donné, on ne peut pas prétendre donner des des leçons de démocratie à qui que ce soit, et ensuite soutenir des moyens aussi antidémocratiques et aussi problématiques.
Pour vous, les cris de colère entendus dans la rue par l'opposition ne sont pas légitimes?
Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit que moi, je soutiens le peuple vénézuélien, et y compris dans la situation qui est la sienne depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, la crise économique très grave qui est alimentée, accentuée par y compris les mesures de rétorsion des États-Unis, par certains membres de classes dirigeantes hostiles au régime. Et donc, oui, le peuple vénézuélien subit une situation économique très dure et très difficile. Ce qui s'exprime aujourd'hui également, mais ce qui s'exprimait aussi déjà dans des mobilisations qui ont soutenu et ont continué à soutenir le président Maduro et ce régime-là. Donc il n'y a jamais eu de problème de notre point de vue à défendre les aspirations des peuples. Au contraire, nous, je pense qu'on est plutôt ceux qui l'ont fait de manière constante et continuent à le faire, à la différence d'autres. Mais ce que nous dénonçons, et je pense qu'il devrait y avoir plus de personnes qui dénoncent cela, c'est un coup d'État institutionnel. On a vu ce qui s'est passé au Brésil, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a une stratégie coordonnée, et on ne peut aujourd'hui, quoi qu'on pense et quelles que soient les critiques qu'on peut avoir sur les choix économiques, sur la gestion par le régime Maduro, on ne peut se tenir aux côtés de Bolsonaro, un fasciste, et de M. Trump et soutenir de quelque manière que ce soit ce qui se passe. Je pense que c'est extrêmement, extrêmement grave, et je pense qu'il faut être ferme là-dessus, et les démocrates, les gens qui défendent la démocratie et les institutions et l'expression démocratique des peuples ne peuvent être ambigus là-dessus. Et nous ne le sommes pas, et nous espérons qu'il y aura plus de gens qui le seront très clairement.
Une question de Sophie Delpont.
Oui, bonjour Daniel Obono. Vous parliez tout à l'heure de la légitimité de soutenir un régime démocratique, mm-hmm. Vous parliez du Venezuela. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un droit à l'insurrection? Si jamais on estime que ce régime-là, notamment dans la répression de manifestations, il y a eu beaucoup de manifestations et beaucoup de cas de répression, qui n'a pas une légitimité à s'opposer à ce régime-là. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre discours ?
Non, mais pas du tout. Je pense que bien sûr que les peuples, et d'ailleurs ils n'attendent pas, les donneurs de leçons en soi-disant démocratie, ont le droit universel à revendiquer, à s'insurger, et à faire progresser les droits.
Vous n'avez pas entendu
ce que j'ai dit, et j'ai dit très clairement, et nous l'avons toujours dit, notre soutien au peuple vénézuélien, à l'ensemble du peuple vénézuélien. Et
dans qui est divisé aujourd'hui,
oui,
ce peuple.
Ah, d'accord, donc vous comprenez bien que oui, il y a une division et une crise, j'ai aussi dit. Et puis il y a notamment une opposition d'extrême droite extrêmement violente qui participe de ces mobilisations-là, qui a commis des exactions, et je pense que je n'ai pas aussi beaucoup entendu de gens dénoncer cela. Donc oui, il y a une crise, et personne ne dit le contraire, et nous défendons, encore une fois, nous l'avons toujours dit, le droit des peuples et leur expression démocratique, et la résolution de ce type de crise, de ce type de conflit, par la démocratie, par l'institution, et non par des coups d'État comme c'est le cas aujourd'hui. Et encore une fois, moi j'appelle plus de démocrates autoproclamés à être très clairs là-dessus, et de ne pas laisser d'ambiguïté, et en sachant qu'on est sur un territoire et dans un continent qui a malheureusement connu beaucoup ce type de situation, soutenu par les États-Unis, et on sait à quoi ça a mené, au type de dictature que ça a mené. Donc j'invite à être très clair et pas ambigu du tout sur ce sujet.
Daniel Bono, vous revenez du Kurdistan irakien, vous revenez de Syrie, mm-hmm. un régime qui est donc souvent montré du doigt comme étant pratiquant la torture dans les prisons. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous êtes allé pour soutenir les Kurdes sur place. Mmh. Quelle est votre position par rapport à Bachar el-Assad? Est-ce qu'il doit partir?
Nous, notre position, c'est d'abord, et c'était la raison de notre présence au Rojava syrien, c'est d'apporter notre soutien au peuple du Rojava, au peuple kurde, mais aussi à l'ensemble des peuples de la région. Il y a des populations, par exemple, réfugiées, les yézidis qui sont dans des camps de réfugiés depuis de nombreuses années. Et donc d'apporter notre soutien dans ce moment d'escalade, parce que là, le risque, et ce qui nous a été dit, c'est le risque d'une attaque de la part de la Turquie qui détruirait ce qu'essaient de construire ces peuples-là. Et donc maintenir et renforcer le positionnement de la France, une fois n'est pas coutume, mais nous pensons qu'il faut soutenir ces peuples-là, et donc exprimer ce positionnement-là, et apprendre plus de cette expérience écologique, féministe qui se joue. Donc c'était le sens de notre présence, et ce que nous disons, et ce que nous allons continuer à défendre. Et nous sommes opposés à tous les régimes et les formes de répression, et nous avons toujours été très clairs, y compris au tout début de la révolution syrienne en 2012. Nous avons soutenu le peuple syrien contre le régime de Bachar al-Assad et contre son régime autoritaire.
Et donc c'est dans cet esprit-là que vous déposez une proposition de loi pour interdire dans l'usage, donc là l'encadrement, on revient en France, hein, on a encore une petite minute avec nous, donc une minute sur en fait cette répression des manifestations, en tout cas cet encadrement et tous ces dérapages, et on pourra mettre beaucoup de guillemets autour de dérapages éventuellement, mais donc vous proposez aujourd'hui qu'on interdise l'usage notamment des flashballs et aussi d'autres techniques d'encadrement policier.
Oui, et je pense que c'est pas le même contexte, sauf faire je ne fais pas d'équivalence, c'est juste la suite des questions qui veut ça, mais n'empêche, je pense que quand justement on prétend donner beaucoup de leçons de démocratie au niveau international, on se doit d'être irréprochable. Et aujourd'hui, notre pays n'est pas irréprochable. Ce n'est pas juste la France insoumise qui le dit, c'est les institutions internationales, c'est le défenseur des droits, notamment dans la répression des mouvements sociaux. Là aussi, on voit quand même ça fait un petit écho à ce qu'on disait tout à l'heure. Et ce qu'on a vu au niveau des moments des gilets jaunes, les milliers de personnes interpellées, blessées, etc., c'est une situation inacceptable. Nos propositions de loi portent là-dessus, sur les techniques d'immobilisation létale qui ont cours malheureusement bien au-delà de la question des mobilisations, sur l'usage des grenades, des flashballs. Et je pense que voilà, nous avons une exigence d'irréprochabilité si on veut être crédible et si on veut surtout respecter les droits démocratiques de sa propre population.
Merci beaucoup Daniel Bonneau, donc en direct de l'Assemblée nationale, député de la 17e circonscription de Paris, député de la France insoumise.
Merci également à vous Sophie Delpont ainsi qu'à Frédéric Quéroux pour les moyens techniques. On termine avec un mot de météo, à l'exception du pourtour méditerranéen où les éclaircies réussiront à s'imposer partout ailleurs. Le ciel restera nuageux. Les températures, elles sont généralement comprises cet après-midi entre moins 1 et 10 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles de Mergue à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.